Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour. Le fracas de Berlin a étouffé celui de Stuttgart. C'est ainsi que Maurice Schumann évoquait la différence de traitement dans les médias entre d'une part l'avancée russe en Allemagne et d'autre part l'avancée française au-delà du Rhin. Ce décalage, cette différence de traitement s'est malheureusement perpétuée et, disons-le, se perpétue encore de nos jours dans les manuels scolaires. Difficile de trouver des références à cette campagne militaire menée par un général à fort tempérament que fut Jean de Lattre de Tassigny. C'est pourtant sous son ordre que dans la nuit du 30 au 31 mars 1945, les troupes françaises franchissent le Rhin comme le firent en leur temps les armées de Louis XIV un peu moins de 3 siècles auparavant. Pour découvrir cette campagne, je reçois Jean-Christophe Notin, qui est l'auteur d'un magistral ouvrage intitulé « Les vaincus seront les vainqueurs, la France en Allemagne 1945 », publié aux éditions Perrin. Jean-Christophe Notin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un jeune historien qui s'intéresse particulièrement aux campagnes oubliées de la Deuxième Guerre mondiale, puisque vous avez aussi publié la campagne d'Italie qui a reçu l'an dernier le prix Raymond Poincaré et également un prix de l'Académie française. Alors, Jean-Christophe Notin, pourquoi cet intérêt pour ces campagnes oubliées ?
Parce que, comme vous le dites fort justement, elles sont oubliées. Et donc, il y a en quelque sorte une sorte d'un sentiment d'injustice que j'ai pu ressentir auprès des combattants, auprès donc de gens qui avaient combattu et donné leur vie et vu leurs copains mourir au champ d'honneur. Donc, quelles étaient ces campagnes oubliées ? Et en fait, il y en a trois grandes campagnes. Il y a la toute première, la plus grande des oubliées, sans doute la campagne de Tunisie, dont on ne parle sans doute jamais, qui était la campagne qui a suivi le débarquement en Afrique du Nord. Ensuite, nous avons eu la campagne d'Italie, qui a fait l'objet de mon second ouvrage, et donc la campagne d'Allemagne qui a en quelque sorte clos la Seconde Guerre pour les Français.
Il n'y a pas eu, sauf erreur de ma part, un ouvrage sur la campagne de Tunisie digne de ce nom.
À proprement parler, non.
Un futur projet d'étude ?
On peut y penser.
On peut y penser. Alors pour cet ouvrage, « Les vaincus seront les vainqueurs », vous avez travaillé sur plusieurs archives en fait, et dans plusieurs pays, n'est-ce pas ?
Oui, 3 pays. Enfin, même 4, la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis.
Et la France, bien entendu. Et y a-t-il des difficultés au niveau des archives pour la consultation ?
C'est plus, je dirais, du sport. Il faut savoir où chercher et quoi trouver, ce qui est sans doute le plus difficile. Après, quand même, les pays étrangers sont quand même beaucoup plus, je dirais, libéraux en ce qui concerne les archives que les Français. L'accessibilité est bien plus grande à l'étranger qu'en France.
Alors, la campagne d'Allemagne débute en mars 1945 et comme je le disais au début de mon propos, elle est un peu reléguée aux oubliettes de l'histoire. Alors, comment expliquer ce mauvais traitement ? Comment l'expliquer, j'allais dire en 1945, puisque Maurice Schumann le disait, les médias s'y intéressent peu, et comment l'expliquer encore de nos jours, alors que finalement, la Deuxième Guerre mondiale et tout son cortège d'horreurs est systématiquement dans tous les journaux.
Je crois que la toute première des raisons, c'est vraiment une raison historique. Il faut voir le contexte de mars 1945. La France est libérée à 95%. Depuis très peu, les gens sont dans une pénurie à peu près totale. On manque de nourriture. Il y a eu des combats assez importants. Il y a eu la déportation, la résistance, la collaboration. Autant de sujets qui préoccupent plus les gens que les armées combattantes, les dernières armées encore au combat. Donc ça, c'est véritablement la raison de 45. C'est ce qui a mis la campagne d'Allemagne un peu aux oubliettes. Et puis, de manière plus récente, je dirais que ça s'est un peu perpétué. Et que de manière plus récente, je pense que l'on a plus tendance à l'heure actuelle, c'est une tendance un peu lourde, à s'occuper plus de ce qui peut, je dirais pas enfoncer la France, mais les Français, mais enfin mettre plus en avant sans doute ce qu'il y a de plus noir chez nous que ce qu'il y a sans doute de plus honorifique, je dirais.
Et alors, le souvenir au sein de l'armée, il s'est perpétué tout de même ?
Oui, non, ça dépend beaucoup des unités. Je sais que dans les unités du génie qui ont fait le débarquement du Rhin, on a gardé un fort souvenir de cette période. La 2e DB, enfin, qui a légué ses traditions à la brigade blindée, a également gardé un très fort souvenir de cette période. Après, ça dépend évidemment des unités, si elles ont été dissoutes avec la nouvelle armée. et qui a récupéré les traditions, et donc ça varie beaucoup.
Alors nous y reviendrons bien naturellement, mais dans cette armée qui se dirige vers le Rhin, il y a des corps qui sont issus en fait de l'Afrique du Nord. Est-ce que ce souvenir se perpétue malgré tout ce qui s'est passé dans les années, fin des années 50 et début des années 60 avec la décolonisation?
Vous faites bien insister sur le fait que la première armée est à 90% originaire d'Afrique du Nord. C'est sans doute également la seconde raison qui explique un peu l'oubli dans lequel est tombée cette campagne. Les Français métropolitains ont eu beaucoup de mal à s'assimiler, enfin à compatir pour le sort de leurs compatriotes d'outre-Méditerranée. Et c'est également donc ce qui a contribué à plonger cette campagne dans l'oubli, puisque une fois l'Afrique du Nord rendue à la souveraineté africaine, je dirais, nord-africaine, les pieds noirs, ce qu'on a appelé les pieds noirs, revenus en France, se sont un peu dissous dans la population, donc le souvenir s'est complètement effacé.
Les champs de recherche restent ouverts aujourd'hui ?
En ce qui concerne l'Allemagne ?
L'Italie, nous parlions de la Tunisie tout à l'heure.
Oui, il y a toujours beaucoup de choses à chercher et à trouver, et en particulier à l'étranger.
Est-ce que c'est un sujet qui intéresse encore les étudiants ?
Vous m'en demandez beaucoup. Je n'en suis pas certain, puisque ça m'a permis de faire quelques ouvrages et de faire les suivants sans doute. Une fois de plus, je crains qu'il y ait une certaine tendance à s'intéresser plus à des sujets fort honorables, je veux dire, comme la libération des camps, ou la déportation, ou la collaboration, qui font appel à plus de sentiments sans doute extrêmes au sein de la société et de la civilisation française que la campagne purement militaire et même politique.
Alors, venons-en donc à cette fameuse campagne. La problématique de votre ouvrage révèle l'importance du politique dans cette campagne qui fut donc un succès militaire. Et c'est ce succès, ou plutôt ces succès militaires, qui permettent à la France de s'imposer. La place de la France en mars 1945, il me semble important d'y revenir. Est-ce que vous pourriez nous décrire le tableau de cette France en 1945, au mois de mars 1945?
C'est véritablement, je crois, une des plus grandes découvertes que m'ont autorisé les différentes archives que j'ai pu consulter. On s'aperçoit vraiment en lisant les archives étrangères que la France en 1945 représente à peu près rien. Malgré les grands sacrifices militaires français, que ce soit en Italie et dans le débarquement en Provence, et les Alliés considèrent toujours la France comme le grand pays des faits en 1940, ont beaucoup de mal à se faire à l'idée qu'elle ait pu se relever en si peu de temps. Donc la France de 1945 est très largement méprisée, ce qui explique que les plans alliés aient très peu envisagé de la faire passer outre-Rhin et de lui faire occuper le territoire allemand. Ce qui sous-entend par la suite la participation au Conseil de sécurité de l'ONU. La France de 1945 est véritablement un pays libéré, en très grand désarroi, mais qui politiquement, internationalement, ne pèse quasiment pas.
Alors je reçois Jean-Christophe Notin, auteur des Vaincus seront les vainqueurs, et il évoque pour nous cette campagne que fut la campagne d'Allemagne. Alors cette campagne d'Allemagne, nous l'avons dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire, oui, au fond, qu'elle s'inscrit dans une continuité avec la campagne de Tunisie et la campagne d'Italie? Est-ce que, au fond, cette campagne de Tunisie, eh bien, déjà, dans la tête des militaires français, on pense déjà à l'Allemagne?
Oui, ça incontestablement. L'armée d'Afrique du Nord, bon, bien entendu, est restée sous le régime de Vichy, mais au moins au rang de la compagnie, les gens se préparaient à reprendre le combat. La campagne de Tunisie, il ne faut peut-être pas tout à fait la ranger sur le même plan que la campagne d'Allemagne. La campagne de Tunisie, c'est véritablement un peu l'expiation, sans doute, des différents drames français. Les Alliés envoient un peu, pour dire les choses clairement, les Français au casse-pipe et essayer d'un peu de tester leur valeur militaire. La campagne d'Allemagne a quand même une portée bien, bien supérieure, puisqu'elle va apporter à la France un prestige et un poids international que la Tunisie ne lui a sans doute pas donné. La campagne d'Italie entre les deux, entre la Tunisie et l'Allemagne, c'est véritablement, je dirais, la preuve que les armées françaises peuvent apporter un plus aux armées alliées.
Et elles arrivent à convaincre ?
Ah oui, incontestablement. Déjà en Tunisie, où on a envoyé des tirailleurs se battre pieds nus avec des mousquetons, on a réussi à stopper des avancées allemandes que les blindés de Patton n'avaient pas réussi à contenir. Ensuite, en Italie, surtout, ça a véritablement été une magnifique page de l'histoire française, qui est honteusement oubliée pour le coup, parce que, bon, outre les 7000 morts, les 45000 blessés, ce sont les Français, avec leurs petites unités, qui ont ouvert les portes de Rome aux armées alliées par une manœuvre vraiment fantastique, et un courage et une abnégation qui devraient faire un peu exemple dans notre société moderne. Mais, bon, enfin, on peut ne pas désespérer. Ensuite, le débarquement en Provence a fait bon, le résultat que l'on sait, et l'Allemagne va apporter véritablement une touche finale assez magnifique.
Alors peut-on dire qu'il existe pour les Alliés, pour les Américains, pour l'Angleterre, une crédibilité militaire, mais à côté de cela, il n'y a aucune crédibilité politique ?
Oui, on peut résumer ça comme ça, oui. Les Alliés ont une grande estime en 1945 pour les armées françaises. Mais après, ça rentre évidemment dans, je dirais, la conception militaire alliée et principalement américaine. Je dirais les deux grandes mamelles de l'US Army, c'est discipline et pragmatisme. Et du point de vue pragmatique, Eisenhower considère qu'il n'y a pas intérêt à utiliser l'armée française dans la conquête de l'Allemagne, quelle que soit sa valeur et quelles que soient les preuves qu'elle ait pu faire.
Alors vous avez une expression extraordinaire pour nous qualifier en mars 1945. Vous dites « nous sommes les invités de la dernière heure ».
Oui, c'est exactement ça. J'ai l'air de me donner quelques fleurs, mais les Alliés en mars 1945 ne veulent pas des Français en Allemagne. Ils ont très vaguement envisagé de lui faire occuper une partie de l'Allemagne. Et encore, ça a été des débats depuis 1943 quasiment. Donc on ne veut pas des Français, ce sont les Français qui, par les armes, vont s'imposer outre-Rhin et puis jusqu'en Autriche.
Alors, dans cette politique, le rôle du général de Gaulle est bien évidemment primordial. Il veut redorer le blason militaire et politique de la France. Vous citez d'ailleurs Clausewitz pour montrer le lien entre le politique et le militaire. Quel est le plan du général de Gaulle, au fond, sur l'Allemagne ? Est-ce qu'il pense l'Allemagne, j'allais dire dans la tradition des traités de Westphalie, en une division complète de l'Allemagne ? Est-ce qu'il veut réduire le rôle des Prussiens ?
Oui, les Américains ont plus pensé l'Allemagne en termes de dénazification, c'est-à-dire ils voulaient faire sauter le régime nazi à tous les échelons, tandis que du côté français, c'est plus un processus donc de déprussianisation, c'est-à-dire enlever le feu pan-germaniste au sein des dirigeants allemands. Donc on veut une Allemagne forte, sans doute, mais lui enlever toute possibilité de conquête européenne. Donc le plan de Gaulle, ça va être d'imposer la force française en Allemagne, pour faire un peu contrepoids aux pouvoirs alliés et soviétiques.
Et le général de Gaulle a une pensée sur le Rhin ? Est-ce qu'il pense à une annexion ? Est-ce qu'il pense à poster, j'allais dire, des points militaires ? Est-ce qu'il pense déjà à l'occupation ?
Il a évoqué fin 44, début 45, une internationalisation, c'est-à-dire qu'il voulait le livrer à la communauté internationale pour éviter le retour allemand sur la rive gauche du Rhin. Il prévoit une occupation partielle, voire une annexion de la rive gauche. En ce qui concerne la Sarre, on est assez indulgent en quelque sorte. On n'envisage pas d'annexion, mais on serait assez heureux que finalement elle s'autoproclame française. Pour le reste, c'est véritablement une occupation que le général envisage à moyen terme. Non, on n'a pas véritablement de visée d'annexion ni de longue occupation. C'est véritablement une sorte de récupération pour récupérer ce que l'Allemagne a pu faire à la France. Restaurer l'Allemagne en bon terme et puis ensuite, bien entendu, le rapprochement franco-allemand qui fera la base de notre Europe.
Alors, est-ce qu'il arrive à au moins parler de sa politique et de sa vision politique à Roosevelt, à Eisenhower ?
Ça, il en parle, mais il n'est pas très, très écouté, on va dire. Les Alliés l'écoutent, enfin, en tout cas, au moins du côté Churchill. Churchill l'écoute avec une oreille assez attentive, d'autant qu'en novembre 1944, il est venu à Paris, il s'est fait acclamer comme jamais. Donc, le Churchill de fin 1944 est très francophile. Roosevelt, en revanche, est complètement sourd à tout ce que peut lui dire de Gaulle. Il est hors de question de voir des Français dans le sud de l'Allemagne. Il a à peine commencé à envisager une occupation. Et c'est bien cette réticence qui pousse de Gaulle, grosso modo, à dire « eh bien, on ne veut pas de nous, eh bien, on va aller chercher nous-mêmes notre zone d'occupation ».
Alors je reçois Jean-Christophe Notin qui évoque la campagne d'Allemagne. Il est l'auteur d'un livre « Les vaincus seront les vainqueurs » publié aux éditions Perrin. Nous nous retrouvons dans un instant.
écoutez Canal Académie.
Un jour dans l'histoire reçoit Jean-Christophe Notin, auteur du livre « Les vaincus seront les vainqueurs » publié aux éditions Perrin. Ce livre aborde une question malheureusement oubliée de notre histoire, que sont les campagnes, ou plutôt la campagne d'Allemagne, qui débute au mois de mars 1945. Alors, nous évoquions les difficultés du général de Gaulle à transmettre, à imposer ses idées auprès du général Eisenhower et du président Roosevelt. Alors, les Anglais et les Américains ont un premier plan qui consiste à envahir l'Allemagne. Et ce premier plan, eh bien, il est, ma foi, assez simple. L'Angleterre se chargera du nord et les États-Unis du sud.
Du sud. Oui, c'est le plan arrêté par Eisenhower début 45 qui prévoit l'invasion de l'Allemagne avec les armées, grosso modo, les armées anglaises occupant la gauche du front, du vaste front allié, les Américains occupant la droite, donc logiquement les Anglais occupant le nord du pays, les Américains le sud. Et pas de Français.
Il n'y a pas de Français, donc c'est la conférence du Québec. Les Français n'y sont tout simplement pas ?
Non, c'est-à-dire que c'est plus compliqué que ça. Les Alliés au début n'en voulaient pas. Finalement, Roosevelt veut bien, accepte in fine des Français en Allemagne, occupant l'Allemagne. Enfin, il accepte le principe, mais le dessin de la zone n'est absolument pas arrêté. C'est-à-dire que la campagne débute fin février, début mars, sans que les Français sachent absolument où ils vont occuper, qu'est-ce qu'ils vont occuper, qu'est-ce qu'ils vont faire, à quoi vont-ils avoir droit en matière de contrôle, de gestion de la zone. Tout ça reste complètement flou.
D'accord. Churchill, lui, de son côté, comprend cette volonté française de s'imposer et il va dans le sens, vous le disiez avant la pause, il va dans le sens du général de Gaulle.
Oui, alors Churchill donc voyage de novembre 1944 est tout enthousiaste, mais bon, il ne faut pas oublier que Churchill n'est pas complètement désintéressé. Il veut bien entendu le retour de la France, mais il veut surtout le retour de la France pour faire c'est la vieille politique anglaise de contrepoids en Europe. Il voit l'URSS d'un côté, il faut un contrepoids. L'Allemagne étant à terre, il faut que ce soit la France. Donc il se fait le champion de la France.
Il se fait le champion de la France, donc on peut dire que c'est lui qui obtient gain de cause pour la France ?
Ah oui, oui, complètement. On le voit très bien à Yalta. Roosevelt vient avec des idées très très négatives, enfin assez négatives sur la France. Et en cela, il est suivi par Staline. D'ailleurs, l'entente entre les deux hommes est assez révoltante quand on peut lire les délibérés des différentes réunions. Et c'est Churchill qui arrive à arracher premièrement le principe de l'occupation française et ensuite à la participation au l'organe de contrôle de l'Allemagne occupée. C'est véritablement Churchill auquel nous devons l'occupation française.
Alors, le 12 février, justement, la France obtient un gain de cause et elle reçoit des mains des ambassadeurs américains, russes et britanniques deux télégrammes lui donnant, au fond, la clé lui permettant d'agir. Que disent exactement ces deux télégrammes ?
Donc, c'est ça. Il y a le principe de l'occupation, de la participation française au futur Conseil de sécurité, c'est Yalta. Et la participation à l'organe, à la commission de contrôle qui siégera à Berlin à partir de juin 1945.
Alors pourtant, la zone d'occupation n'est pas encore arrêtée. Est-ce que, au fond, la France ne bénéficie pas d'une grande marge de manœuvre du fait du flou des alliés ?
Là, vous êtes optimiste. On peut voir ça comme ça. En effet, les Français auraient pu se répandre dans toute l'Allemagne, essayer de grignoter la zone. Et c'est un peu le raisonnement que va tenir de Gaulle et qu'il va essayer d'instiller à Delattre. Grosso modo, il va lui dire « traversez le Rhin et prenez tout ce que vous pouvez ».
D'accord.
C'est véritablement le principe des chaises.
Ce n'est pas un blanc-seing, mais…
Quasiment.
Quasiment.
Oui, quasiment.
Quasiment. Alors, du côté américain… Il y a des évocations politiques qui font un peu sourire. Il y a Roosevelt qui parle d'un état de Wallonie.
Ça fait partie des déclarations assez fumeuses de Roosevelt. On reste assez sidéré quand on lit les déclarations de Roosevelt à différents moments de sa vie. Alors je ne sais pas si la maladie sur la fin de sa carrière, bien entendu, a peut-être un petit peu altéré son jugement, comme le laisse penser le docteur personnel de Churchill qui a suivi toutes les conférences au jour le jour. Mais c'est vrai que certaines de ses positions laissent beaucoup de questions sur la capacité qu'il avait à raisonner et à estimer le futur du monde et sa relation avec l'URSS.
Est-ce que ce n'est pas une absence de réalisme sur la situation politique réelle de ce qu'est l'Europe ? Et au fond, n'est-il pas orienté, enfin sa pensée n'est-elle pas orientée uniquement vers la dénazification ? Et le côté politique est laissé au fond à un certain idéalisme, non ?
C'est ça. Bon, ses conseillers s'en défendent. Ils ont produit moult ouvrages après-guerre pour expliquer que ce n'était pas ça. Mais On peut quand même s'inquiéter beaucoup sur la naïveté de Roosevelt lorsqu'il lie l'Europe de 1945 et surtout sa relation avec l'URSS. Il estime qu'en établissant un lien de confiance avec Staline, tout se passera bien, les États-Unis et l'URSS pourront régler le sort du monde en quelque sorte très gentiment entre gentlemen. Et que donc, avec cette confiance, tout ira bien. Et bon, on a vu les conséquences.
Alors, nous en arrivons à la préparation de l'armée française. Que possède la France sur le plan militaire à cette époque ?
En tout et pour tout, une armée.
La première.
La première, puisqu'il n'y en a qu'une. On avait eu un peu de snobisme, en quelque sorte. On avait appelé l'armée A, l'armée d'Italie, l'armée B, celle qui a pris la suite pour la Provence. En fait, donc, il n'y en a qu'une, puisque la première armée est constituée pour large part des divisions d'Italie et des divisions blindées qui attendaient en Afrique du Nord. Donc la première armée, c'est en tout et pour tout une dizaine de divisions, ça fait à peu près entre 250 000 et 400 000 hommes en fonction des remplacements et du fameux amalgame qui a consisté à prendre des anciens maquisards FFI à la place des tirailleurs sénégalais nord-africains qu'on a renvoyés chez eux au moment de l'hiver 44. Donc c'est une armée avec, bon, en quelque sorte, en électron libre, nous avons la 2e DB du général Leclerc, qui a fait partie de la première armée pendant un certain temps et vu ses démêlés avec Delattre, ensuite a rejoint les armées américaines. Donc en tout et pour tout,
c'est véritablement un électron libre.
C'est un électron libre complètement.
Alors quel est l'état de cette armée ?
C'est assez difficile de répondre, ça dépend beaucoup des unités. Ce sont quand même des divisions très éprouvées, qui ont, donc pour celles d'Italie, qui ont véritablement fait merveille. Ce sont des guerriers aguerris. Nous avons des divisions blindées qui ont également fait merveille jusqu'en Alsace et aux Vosges, donc des armées très éprouvées qui ont beaucoup, beaucoup souffert. Du point de vue équipement, c'est assez délicat d'estimer parce qu'il y a eu ce fameux amalgame. Or, l'amalgame n'avait pas été approuvé par les Américains, qui ont dit grosso modo « débrouillez-vous avec le stock qu'on vous a donné ». Donc ça a obligé à faire certains partages et à partager un peu la pénurie. Mais bon, on peut estimer grosso modo que c'est une armée très, très, comment dire, aguerrie, très, très apte au futur combat, qui n'a pas tout le matériel qu'elle souhaiterait. Donc un bel outil de guerre.
Je reçois Jean-Christophe Notin, qui est l'auteur d'un livre sur la campagne d'Allemagne, « Les vaincus seront les vainqueurs », et nous évoquons le 30 et le 31 mars 1945, la nuit du 30 au 31 mars, qui est la fameuse nuit du passage des armées françaises sur le Rhin. Alors l'armée, nous évoquions la première armée, l'armée est dirigée par un homme, qui est un sacré personnage, c'est le général Delattre de Tassigny. Alors pour les jeunes générations, c'est un nom un peu oublié. Pourriez-vous nous présenter ce personnage ?
C'est véritablement un condottiere, un personnage haut en couleur, et sur lequel il y aura encore beaucoup, beaucoup de livres à écrire, sans doute. Donc c'est un guerrier, je dirais en quelque sorte professionnel, qui avait fait ses preuves pendant la Première Guerre mondiale, qui avait été blessé, qui a ensuite différentes responsabilités, que bon, la seconde guerre arrive, il combat avec la 14e division, sans trop dire de bêtises. Sa division combat relativement bien, il reste en France jusqu'en 42. En 42, au moment de l'invasion allemande de la zone libre, il part en résistance, dans des combats, un comportement un peu désespéré, il est fait prisonnier. Il s'évade dans des conditions qui sont toujours un peu sujettes à caution. Enfin, la légende veut qu'il se soit évadé dans des conditions héroïques. Il rejoint Londres, on ne sait pas trop pourquoi, à vrai dire. Ensuite, il va en Afrique du Nord. C'est un personnage qui intrigue un petit peu, qui est toujours un peu la source de différentes, non pas complots, mais différentes manœuvres pour essayer de se placer. Bon, il jouit d'une excellente relation avec le général de Gaulle, qui donc lui réserve d'emblée qui le destine à la libération de la France. Il récupère donc l'armée Juin d'Italie. Juin et Delattre sont un peu les deux grands concurrents de l'époque. Ils ne s'estiment pas beaucoup, ils se détestent même cordialement. Et donc Delattre libère le sud de la France, débarque en Provence en août 1944, libère tout le sud, avec les Américains bien entendu, libère Lyon, rejoint les Vosges, l'Alsace, fait des choix tactiques et stratégiques également qui laissent beaucoup à désirer. Et donc se prépare à envahir l'Allemagne en mars 1945.
Alors c'est une forte personnalité, un homme de caractère, non ?
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est vraiment, il est soit très très aimé, soit détesté largement. La première armée est, je dirais, un peu partagée entre les deux tendances. On dit généralement que ceux qui ont beaucoup aimé Juin détestent Delattre totalement. Tous ceux qui ont servi Juin ont apprécié l'homme très proche des hommes, très paternaliste. Delattre, ce n'était pas du tout ça, c'est quelqu'un de très théâtral, on l'a surnommé du théâtre de Marigny. C'est quelqu'un qui s'improvisait dans les popotes, il fallait absolument être nickel du point de vue uniforme, qui aimait beaucoup l'apparat, rouler dans de grosses berlines annoncées par des motards. Donc quelqu'un qui ne laisse pas indifférent.
Il était craint par les soldats, non ?
Oui, il était craint pour le point de vue discipline. Il arrivait dans une chambrée ou dans un régiment, si tout n'était pas nickel, il partait dans des fureurs pas possibles, c'était sanctions. Il a remplacé différents chefs de corps en pleine bataille pour des raisons qui ne sont pas toujours très explicables. J'en parle au moment de l'Allemagne, en pleine campagne d'Allemagne, en plein combat. Il remplace un général de division d'une très belle division pour des raisons qui sont très très contestables. Puisque c'était uniquement parce que le général avait osé remporter une bataille qu'il avait destinée à un autre général. C'est quand même le comble en pleine guerre. Donc quelqu'un de très, très, très discuté, d'assez craint, de très moqué aussi, il faut le dire, mais qui a l'appui du général de Gaulle donc, jusqu'en 1945, jusqu'à son éviction personnelle. Il n'y aura quasiment rien à dire contre le général de Lattre.
D'accord. Alors, il a une phrase qui est magnifique. Il dit « Je veux détruire le mythe de l'invincibilité allemande ». Il a une volonté. Est-ce que cette volonté va participer, au fond, de la rapidité de cette expédition en Allemagne ?
Oui, ça, il faut reconnaître ensuite à de Lattre. Si autant ses choix stratégiques jusqu'en mars 1945 sont assez discutables, autant la conduite de sa campagne d'Allemagne va être assez magnifique. Il va être l'origine d'une manœuvre autour de Stuttgart qui est vraiment digne d'éloge. Enfin, je ne suis pas historien militaire, mais on voit quand même un mouvement de troupes qui est assez phénoménal. En tout cas, sur la traversée du Rhin, ce qu'il faut reconnaître à de Lattre, c'est donc son talent d'improvisation, de spontanéité. Maintenant, sur le point de vue manœuvre, on doit le succès très principalement à la qualité des troupes. Sans la qualité des troupes, qui sont celles qui avaient fait l'Italie, l'opération aurait sans doute été un échec.
Alors nous allons y revenir. Prenons position, si vous le voulez bien, sur le théâtre des opérations. En mars 1945, vers la mi-mars, où se situe l'armée française ?
Alors nous sommes grosso modo au nord de Strasbourg. On est vraiment dans le coin nord-est de la France. Donc entre le nord de Strasbourg et la frontière allemande, qui est marquée par la hauteur, un petit cours d'eau. Ça représente une zone de, bon, je ne vais pas m'avancer, mais de 40 km sur 10. Donc c'est vraiment tout, tout petit. Les Américains nous ont laissé la portion congrue du front. On est coincé dans ce petit coin nord-est et on attend de pouvoir franchir le Rhin qui est sur notre droite.
Il est loin le Rhin ?
Les Français bordent le Rhin.
Les Français bordent le Rhin, d'accord. Alors nous allons évoquer cette traversée, Jean-Christophe Notin, après une seconde pause.
Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean d'O, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
Un jour dans l'histoire reçoit Jean-Christophe Notin, qui est l'auteur d'un excellent livre sur la France en Allemagne, à savoir « Les vaincus seront les vainqueurs », paru aux éditions Perrin. Alors Jean-Christophe Notin, nous sommes au moment où la France est près du Rhin, elle borde le Rhin, et vous montrez dans votre livre que le moral des troupes n'est pas très bon, car déjà, on peut parler d'une absence de reconnaissance.
Ah oui, tout à fait. Déjà en mars 1945, les troupes ont combattu donc pour la plupart depuis août en France. Mais donc il y avait celles qui ont fait l'Italie, celles qui ont fait l'Afrique du Nord. Il y a les Français libres qui ont combattu depuis septembre 1940. Et ils arrivent dans un pays, enfin ils retrouvent leur pays, qui est certes heureux d'avoir été libéré, mais qui très rapidement, on lit beaucoup d'exemples, par exemple au Bois de Boulogne, vous avez la 2e DB qui occupe le Bois de Boulogne. 2 semaines après la libération, vous avez des gens qui commencent à leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites encore là ? Il faudrait un peu nous libérer de la place, allez donc combattre en quelque sorte. » Donc les troupes qui se trouvent en mars 1945 en Alsace et qui ont quelques permissions, qui vont à Paris ou dans leur ville natale, trouvent des gens complètement, assez désintéressés. Plus intéressés une fois de plus par ce qui est tout à fait compréhensible, par la nourriture, le retour de leurs prisonniers, le retour des déportés, que par ce que vont pouvoir faire leurs petites troupes du côté de l'Allemagne.
Alors les Américains et les Anglais dirigent en quelque sorte ce mouvement. Il y a un plan qui est bien établi, c'est le plan Eclipse.
Oui, tout à fait. Donc c'est le plan d'invasion de l'Allemagne. Donc élaboré en janvier-février, laisse une portion très très congrue aux Français.
Pas de grandes villes.
Rien. À vrai dire, au tout début, le tout premier plan prévoit grosso modo que les Français vont servir un peu de chien de berger aux
de
alliés.
Garde-chiourme, vous voilà. Utilisez l'expression dans votre livre.
Je suis un peu méchant, mais c'est ça. C'est les alliés libèrent et les Français passent derrière pour garder la maison.
Alors, que va faire la France à ce moment-là? Que va faire Delattre? Parce qu'au fond, nous le disions tout à l'heure, il va profiter de ce flou qui règne autour des consignes américaines et anglaises.
Donc, Delattre, sous l'impulsion de Gaulle, sa théorie va être, grosso modo, à chaque fois qu'on nous laissera une place, on va essayer de l'agrandir. Donc, quand on est au nord de Strasbourg, les Alliés nous accordent un tout petit bout de frontière qui fait une dizaine de kilomètres. Il va se débrouiller pour que ça en fasse une trentaine, pour avoir une plus grande emprise sur la frontière. C'est son expression, il faut que le front se termine en trombone plutôt qu'en sifflet. Ensuite, l'étape suivante, il va falloir avoir un meilleur morceau de Rhin pour pouvoir traverser le Rhin en meilleur endroit. Donc il va également grignoter un peu la zone au nord. Ensuite, une fois qu'on aura traversé le Rhin, ça va consister, alors qu'on avait une toute petite zone, une petite poche d'une trentaine de kilomètres, ça va consister à élargir sur la gauche, élargir vers le sud. On ne voulait pas de nous à Stuttgart, bon, on va quand même prendre Stuttgart. On ne voulait pas de nous à Ulm, on va prendre Ulm quand même. À l'origine, on ne voulait pas de nous en Autriche, ben, on va quand même rentrer en Autriche. Donc à chaque fois, c'est du grignotage, c'est de l'exaspération côté américaine. De là qu'il a véritablement, c'est, je dirais, le bon aspect de sa personnalité. Il a un talent de conviction et certainement d'exaspération qui est assez unique.
Est-ce un bon diplomate ?
Ah, quand on lit les textes officiels, oui. Quand on lit les carnets tenus par les généraux américains de l'époque, ils sont tous stupéfaits par... son savoir-faire, l'aspect une fois de plus très théâtral, un peu français, négociateur, mais ça les exaspère profondément. Ils ne supportent pas ça. Une fois de plus, l'US Army, c'est pragmatisme et discipline. Donc un général qui soit français ou américain, il doit se taire et appliquer les ordres. Donc ça les exaspère complètement. Mais il y a la part gouvernementale et politique qui va dicter finalement la décision finale.
C'est peut-être le plus grand paradoxe, au fond, ce militaire qui désobéit.
Oui, oui, alors ça, les Américains, ils ne comprennent pas. Mais bon, ils ont déjà eu ça un petit peu en Italie, mais Juin avait quand même des talents, pour le coup, bien plus diplomates, il était bien plus proche des Américains. Ensuite, les Américains ont éprouvé ça avec Leclerc. La conquête de Paris et Strasbourg sont également à l'origine de désobéissance. Et alors, ils tombent sur Delattre qui leur fait à peu près tout. Il leur fait avaler les pires couleuvres. Ils ne comprennent pas, mais bon, ils sont finalement assez indulgents puisqu'ils voient bien que le résultat est quand même assez fantastique.
Alors plus concrètement, nous sommes près du Rhin et en face des troupes françaises, de l'autre côté du Rhin, il y a la ligne Siegfried. Et cette ligne, au fond, est une opportunité pour la France parce qu'il s'agit de la contourner. Il ne s'agit pas d'y faire face.
Alors, la ligne Siegfried a un dessin un petit peu particulier. Au nord de Strasbourg, elle suit la hauteur. Et puis ensuite, de l'autre côté du Rhin, il y a une espèce de bourgeon qu'en effet, il va falloir contourner. Alors, le grand mérite français, ça va être d'enfoncer tout ça allègrement, avec des troupes fantastiques, que sont les Goumiers, les Tirailleurs. Ils vont faire véritablement une brèche fantastique. Et de l'autre côté du Rhin, ils vont s'enfoncer de centaines de kilomètres en quelques jours.
Mais ils font face à la ligne Siegfried, donc.
Au nord de Strasbourg, oui, vous avez ce qu'on a appelé les dents de dragon. Enfin, ce sont des espèces de gros blocs pyramidaux en béton. Vous avez une série de casemates, de blocos, qui sont le long de la hauteur. Donc c'est véritablement au nord de Strasbourg. Et puis vous avez un bout de ligne Siegfried qui est de l'autre côté du Rhin, mais que les Français vont essayer de contourner en montant beaucoup plus au nord.
Alors les Américains, eux, sont partis depuis 15 jours environ.
À peu près, oui.
L'opération s'appelle Undertone, oui. C'est-à-dire faible ton. Quelle est la position américaine à ce moment-là ?
Vis-à-vis des Français ?
Oui. C'est-à-dire militairement, bon, la France est toujours en retrait.
Oui. C'est, une fois de plus, c'est du pragmatisme. Les Américains voient les Français au bord du Rhin. Il faut quand même quelqu'un pour garder le Rhin. On ne sait jamais si les Allemands... par le plus grand des hasards, avait envie de repasser sur la rive gauche, il faut des gardiens du Rhin. Donc ils voient les Français à cet endroit-là, ils se disent ils sont très bien là, donc on va les laisser là. Tandis que nous, on va enfoncer le front et pénétrer en Allemagne.
C'est là où Delattre, en fait, affirme sa personnalité et se montre négociateur. C'est qu'il arrive à s'imposer, à faire passer ses hommes, non plus en garde-chiourme, mais en véritable campagne militaire.
Ah oui, une fois de plus, les Français à l'origine, ce sont des gardiens du Rhin. On veut les laisser là, on veut les laisser à l'intérieur de la France. Ensuite, par la qualité combative et l'ardeur des troupes françaises, il va en faire des conquérants. Une fois de plus, Stuttgart, qui est quand même une ville assez conséquente, devait être dévolue complètement aux Américains. Ce sont les Français qui vont la prendre.
Les Américains, visiblement, sont plus entreprenants que les Anglais eux-mêmes, puisque Patton vous racontait une scène où il appelle je ne sais plus quel général. Et
Bradley.
Bradley, voilà. Et le général Bradley est étonné d'entendre Patton à l'autre bout du fil, disant « Je suis de l'autre côté ».
Ça, c'est du Patton tout craché. Il a l'opportunité. Il fonce, quels que soient les ordres. Il envoie toute son armée par un pont qui, normalement, ne devait pas être encore sur pied. Patton le trouve intact et donc il fonce. Et en cela, Leclerc et même Delattre lui ressemblent beaucoup. C'est profiter de l'opportunité au moment où on ne s'y attend pas.
Montgomery, lui, l'anglais, est beaucoup plus prudent. Il réunit ses 26 divisions.
C'est ce qu'on a beaucoup reproché à Montgomery, mais que depuis, quasiment, est l'Allemagne. C'est-à-dire... précaution maximale, il fait toujours précéder ses opérations de X jours de bombardement, de parachute. Alors, au moment de la traversée du Rhin, Montgomery introduit cette donnée supplémentaire. Il veut faire parachuter des divisions en plein jour, ce qui a été le plus grand effroi des Américains. Ça a produit des pertes assez considérables, mais c'est la théorie de Montgomery. On ne fait jamais une opération sans tapis de bombe, préparation maximale. Donc, c'est tout le contraire d'un Patton. C'est vraiment la précaution maximale.
Nous sommes toujours du côté de la rive gauche du Rhin pour l'instant. Les Français sont sujets à une propagande allemande qui est assez étonnante. Vous évoquez ces haut-parleurs.
Oui, alors les Allemands ont fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer de décourager ces pauvres Français. Donc ils installent des haut-parleurs le long du Rhin, mais c'est une pratique assez courante en propagande militaire. Donc ils s'adressent, que ce soit en français, en arabe, dans toutes les langues, pour essayer d'inciter les troupes à déserter, à expliquer que ce sont un peu la dernière roue du carrosse des alliés, donc essayer de casser le moral comme ils peuvent.
Alors nous évoquons justement énormément les alliés, mais nous ne parlons pas des Allemands. Quelle est leur position à l'époque? J'allais dire d'un point de vue politique et de manière générale, et d'un point de vue militaire de l'autre côté du Rhin. Est-ce qu'ils sont gonflés à bloc? Est-ce qu'ils sont prêts à résister? Non. Ou au contraire, on peut déceler déjà chez eux un certain relâchement?
Là encore, ça dépend beaucoup des unités et du commandement. Vous avez une part du commandement qui sait que c'est fini, surtout après l'échec de l'offensive des Ardennes. Ils savent que la partie est terminée, donc grosso modo, il faut attendre les alliés, et surtout que les Russes poussent. Le danger principal du côté allemand, c'est l'invasion soviétique. C'est la plus grande crainte. Donc finalement, pourquoi ne pas faciliter en quelque sorte l'avancée alliée et pour qu'ils soient plutôt à Berlin et éviter l'invasion soviétique. Et puis, il y a quand même une certaine part de la Wehrmacht et surtout des Waffen-SS qui reste complètement déterminé, donc il y a des troupes qui vont se battre jusqu'au dernier moment, et même après 8 mai.
Un jour dans l'histoire reçoit Jean-Christophe Notin, auteur d'un livre sur la campagne d'Allemagne, « Les vaincus seront les vainqueurs ». Alors pour passer de l'autre côté du Rhin, vous allez me dire, il faut tout simplement des bateaux. Mais trouver des bateaux à la fin du mois de mars 1945, ce n'est pas une chose facile.
Ah ça, c'est véritablement c'est une page fantastique. La traversée du Rhin, je suis même étonné que ça n'ait pas été plus raconté parce que c'est véritablement fantastique. Bon, alors on retrouve l'improvisation de Latte qui veut faire traverser ses troupes alors qu'elles n'ont pas de bateau parce que les Français les ont cédés pour partie aux Américains un peu plus au nord. Donc les Français se retrouvent absolument sans bateau pour traverser un fleuve, c'est un peu embêtant. Et donc nous avons un régiment qui est le 3e régiment de tirailleurs algériens qui va traverser à Spire avec un bateau pneumatique, un seul. Ils vont gonfler en douce dans une cabane pour éviter de ne pas trop attirer le bruit des Allemands de l'autre côté.
Alors nous sommes là dans la nuit du 30 au 31 mars. Il faut rappeler que Delattre a insisté pour que la traversée se fasse rapidement.
Oui, alors,
puisque visiblement les troupes n'étaient pas... d'abord elles ont été au courant très tardivement, à la fin de la journée du 30. Et d'un autre côté, il y avait visiblement les responsables qui n'étaient pas très...
Delattre a rendu fou non seulement les alliés, mais ses généraux, puisqu'il a activé la traversée de deux jours, de deux journées. Vraiment, il les a rendus fous. Et donc, il a demandé à des troupes de traversée qui n'étaient absolument pas prêtes, qui étaient à des dizaines de kilomètres de là, des troupes qui étaient fatiguées. Il y a eu tout un imbroglio, il y a eu un embouteillage pas possible. Les troupes qui devaient traverser n'ont pas pu traverser. Et donc ce fameux 3e régiment de tirailleurs algériens s'est retrouvé avec un seul petit canot à traverser. Donc il y a un groupe de 8 hommes qui a traversé le Rhin. Heureusement, il y avait pas d'opposition. Donc ça s'est très bien passé, c'était du côté de Spire. Mais la plus belle page est quand même écrite 20 km plus au sud, du côté de Germersheim. Nous avons le 4e régiment de tirailleurs marocains qui a écrit une page véritablement fantastique.
Au nord, nous sommes déjà en territoire américain, si je puis dire.
Oui, oui, oui.
Ça... Nous sommes assez audacieux, au fond. C'est là.
Oui. Une fois de plus, quand les Français traversent la frontière allemande, ils se retrouvaient avec un tout petit morceau de Rhin et la rive droite de ce côté-ci était complètement, c'était atroce, un dénivelé pas possible, des blockhaus tous les 20 mètres. Donc Delattre est allé voir les Américains en leur disant grosso modo, vous me donnez 20 km encore plus au nord. Les Américains sont assez gentils, ils nous le cèdent. Et donc c'est ce qui a permis cette traversée de ce côté-ci, la rive droite était un peu plus hospitalière.
Cette traversée, vous évoquiez un passage au nord, un passage au sud, elle se fait dans le temps, elle se fait en combien de temps justement elle se
Alors
fait...
ça commence, le 3e régiment algérien, il commence de commencer dans la nuit du 30 au 31, vers 2h du matin. Le 4e marocain, donc 20 km au sud, devait passer à peu près vers 4-5 heures. Et alors là, il y a toute une succession de malheurs. Dans le timing, dans le bombardement, dans la préparation de la zone, dans tout. Nous avons une pauvre compagnie emmenée par un lieutenant de Lille qui se retrouve complètement perdu au milieu du Rhin. Finalement, c'est une autre compagnie, enfin une autre section qui traverse. Et dans des conditions abominables, il y a eu un certain nombre de tués. Le génie absolument fantastique qui avait permis la traversée du Rhin. Et une opposition qui était farouche. Il a fallu donc bien... ça a commencé donc vers 4h du matin. On peut dire que du côté du 4e marocain, ça ne s'est pas terminé avant 5-6h l'après-midi.
Vous évoquez dans votre livre le courant du Rhin. Il y a un très fort courant. Je ne sais plus combien de mètres par seconde, mais c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte.
Le courant, une fois de plus, comme Delattre a tout anticipé, la zone n'a pas été repérée. Donc il y a cette fameuse compagnie qui se retrouve en plein milieu du Rhin en croyant avoir atteint la rive droite, alors qu'en fait elle est sur une île.
Et donc il n'y a pas de résistance sur l'île.
Il n'y a personne. Les pauvres, ils se retrouvent seuls. Ils croient vraiment s'enfoncer en territoire allemand. Ils se retrouvent face à de l'eau. Et ils voient donc les premiers obus éclater de l'autre rive. Les mitrailleuses commencer à se déchaîner. Et eux qui sont au milieu, plantés, à ne rien pouvoir faire. Le génie qui les a complètement oubliés. Et ça a donné lieu à, une féroce engueulade de Delattre. Il lui a donné un prétexte pour taper sur le 4e marocain, puis sur la 2e division d'infanterie marocaine.
Je reçois Jean-Christophe Notin qui évoque pour nous la campagne d'Allemagne. Nous nous retrouvons dans un instant.
Canal Académie.
Nous reprenons avec Jean-Christophe Notin le cours de notre émission et nous parlons de cette campagne d'Allemagne, de cette fameuse traversée dans la nuit du 30 au 31 mars 1945, la traversée du Rhin. Alors, la campagne bat son plein, si je puis dire. À quel moment les Allemands commencent à réagir dans la nuit? Ils réagissent très tardivement, visiblement. Ils ne réagissent pas la nuit, mais plutôt vers la matinée.
Enfin, la première opposition du côté de Gammersheim, les Marocains l'ont tout de suite. Dès la première vague, il y a 8 hommes, donc, finalement, qui réussissent à traverser. C'est quand même très très peu. Et ils sont tout de suite fixés sur la plage. On n'arrive pas à traverser. Du côté du 151e, qui est le 3e régiment, donc à avoir traversé dans cette nuit, à quelques kilomètres du 4e marocain, là par contre, c'est quasiment un déluge de feu. Ils n'arrivent pas à traverser. Les troupes refluent, avec une trentaine de morts à la clé. Enfin, c'est limite échec complet de l'opération. Donc quand même les Allemands sont sur leur garde et donc petit à petit vont envoyer des renforts du côté du 151e. Finalement la traversée ne réussira pas, il faudra passer par la zone du 4e marocain pour que ça s'arrête, pour que l'opposition allemande soit dominée.
Alors à partir de quel moment on peut dire que la France est suffisamment en nombre de l'autre côté du Rhin pour pouvoir s'opposer à l'Allemagne? Tous les cas aux troupes allemandes qui bordent le Rhin.
Très très progressif parce que donc on traverse le Rhin en une zone où il n'y a pas de pont. Donc les renforts et en particulier les blindés, il faut qu'ils passent à Mannheim qui est une trentaine de kilomètres plus au nord, donc ça fait quand même un détour.
Et ils peuvent traverser à ce moment-là?
À ce moment-là non, il faut quand même que la rive droite du Rhin soit relativement sécurisée. Donc c'est la situation est très instable jusqu'au 2 avril, on va dire. Donc 2-3 jours après. Le temps quand même, les blindés arrivent en nombre et puissent soutenir l'infanterie. Mais l'infanterie est déjà très enfoncée. Dès le 1er avril, on les trouve à 20 km, ça galope.
Alors vous insistez sur la rapidité de l'action, malgré tout. Où en sont, de leur côté, les Américains et les Anglais? Ils sont aussi rapides que nous?
Ça dépend beaucoup des zones. Les Allemands ont fixé une très grosse défense du côté de la Ruhr, une certaine poche de la Sarre. Les Britanniques s'enfoncent assez facilement, oui et non, jusqu'à Hambourg. Et puis ça commence là à fixer. Les Américains ont un rythme de progression assez avancé puisque les deux objectifs de cette campagne d'Allemagne, enfin les deux pôles d'attraction en quelque sorte, ça a été le Berlin et le fameux réduit alpin. Berlin, finalement, les Alliés n'avaient pas prévu de pouvoir le prendre. Ils estimaient que les Soviétiques en étaient beaucoup plus proches. Et finalement, l'opposition allemande est telle que les Alliés peuvent envisager de prendre la capitale eux-mêmes. Donc, ils prouvent quand même que la progression a été assez rapide.
Alors, la conquête française, elle, pour l'instant, nous le disions tout à l'heure, elle ne doit pas aller se porter vers des grandes villes, puisque chez les Américains et les Anglais, il est hors de question que la France s'empare de grandes villes. Alors, en quoi consiste cette conquête?
Les plans initiaux prévoyaient, grosso modo, qu'on longe un peu la rive droite du Rhin, qu'on sécurise jusqu'à la frontière suisse. Et de l'âtre, évidemment, ça ne lui convient pas, il voit Stuttgart. Donc la manœuvre française va être, parce que entre le Rhin et Stuttgart se trouve la forêt noire, va être de contourner la forêt noire et puis de l'enfoncer. C'est toute une manœuvre de débordement assez fantastique, avec pour pôle donc principaux d'attraction Fribourg au sud, Stuttgart à l'est, et puis l'Autriche.
Très vite s'impose ce but.
Oui, de là, dès qu'il passe le Rhin, il ne voit que Stuttgart.
Il
est hors de question de se contenter de suivre le Rhin. Donc toute sa manœuvre, ça va être Stuttgart. Il va organiser toutes ses troupes, ses deux corps d'armée, de sorte de prendre Stuttgart aux Américains le plus vite. Puisque la course française, en quelque sorte, outre-Rhin, se joue contre les Allemands, mais aussi contre les Américains. Puisque les Américains, en progressant relativement vite, ont également toute possibilité d'atteindre les zones susceptibles d'être gagnées par les Français avant les Français. Donc il faut aller très vite.
Alors, il y a une véritable course, une émulation. Est-ce que cette émulation est présente dans les esprits des soldats?
Ah oui, ça c'est incontestable. Évidemment, ils arrivent sur le sol de leurs occupants d'hier, alors que ce soit pour les troupes d'Afrique du Nord qui sont restées hors de France très longtemps, ou pour les ex-FFI, FTP qui ont été occupés, qui ont subi tous les sévices de l'occupation, de la répression. Ils ont tous à cœur de prendre une revanche formidable. Alors revanche, vengeance ou différentes exactions ont pu être commises, mais ils ont tous à cœur d'infliger en quelque sorte une raclée à l'ennemi. Donc ça y va franchement, les toutes premières lignes, on a beaucoup de mal à ravitailler les blindés de l'avant, ils vont à toute allure.
Alors il y a un point sur lequel je voudrais m'attarder quelques instants, c'est la fameuse visite de Delattre. Donc Delattre est rive gauche et il tient absolument à visiter la rive droite. Il y a un épisode, je ne vais pas dire tragicomique, mais quasiment.
Assez tragicomique, c'est tout à l'image de Delattre. Delattre arrive au 4e Marocain, il veut traverser la rive du Rhin. On a beau lui expliquer que c'est pas possible, que... il n'y a pas les moyens encore matériels, et donc il s'impose, il embringue un pauvre lieutenant qui passait par là. Le pauvre lieutenant ne sait pas où ses troupes ont traversé, donc...
Il longe le Rhin.
Il longe le Rhin, il regarde grosso modo où ça tire. Il arrive en une zone, alors on dit au général ne traversez pas. De là, il dit si, il faut que je traverse. Donc on le met sur un bateau, il passe sur la rive droite. Et alors là, c'est tout le phénomène de l'âtre qui interpelle les soldats en leur disant « Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette journée historique, mémorable ?» Et il tombe sur ce pauvre commandant Brunel, qui est le patron du bataillon, qui a donc travaillé toute la nuit, enfin qui a subi des pertes assez conséquentes. Et Brunel qui lui dit grosso modo que les soldats n'en ont absolument rien à faire, que ce qui compte c'est qu'ils se reposent.
C'est une bataille comme les autres.
C'est une bataille comme les autres. Alors ça ne plaît pas du tout à Delattre, qui va avoir une rancune formidable pour Brunel. Et puis beaucoup plus loin, donc pour même le général, le commandant de la division, il sera évincé.
Delattre a des références, disons, classiques. Il évoque Turenne.
Oui, c'est toute la légende de l'armée française. On connaît ça par cœur. À l'époque, toutes les grandes figures y passent.
Alors, il y a une autre visite qui, elle, est plus prestigieuse encore, c'est celle du général de Gaulle.
Oui, ça doit être le 7 avril, juste après l'édification du premier pont français à Aspire. Le général de Gaulle donc vient féliciter ses troupes et traverse pour la première fois le Rhin. Il s'arrête au milieu du Rhin, réfléchit assez longue au destin de la France depuis ces dernières années. Et avec un incident là également quasiment tragicomique, puisque de Messerschmitt arrivent et survolent la zone, les troupes sur place n'ont pas prévu de défense antiaérienne, ce qui fait que les avions se promènent au-dessus du général de Gaulle et de toutes les autorités. Ils auraient très bien pu mitrailler tout le monde, et fort heureusement, ils ne l'ont pas fait. Mais ça a valu également un savon pour les commandants de la zone.
Alors nous renvoyons bien évidemment nos auditeurs à votre livre pour la suite des événements que nous pouvons malheureusement pas évoquer. Peut-être un ou deux points. On est étonné par la rapidité, encore une fois, de cette avance dans cette Allemagne qui souffre. Il n'y a pas de résistance ?
Alors il y a le fameux Werwolf, qui est le loup-garou, traduit en allemand, qui est une espèce d'organisation de résistance qui est très disparate. Finalement, elle s'est très très peu manifestée. Ça avait été une des grandes craintes alliées, inspirée de la résistance française. On avait craint que les Allemands puissent faire autant de malheur que les Français, donc ça n'a pas été le cas. Il y a eu des résistances très isolées en fonction des villes et de la motivation, de l'émulation des Gauleiter locaux, des chefs de résistance qui ont réussi à fédérer dans certains endroits certains noyaux de population. Mais dans l'ensemble, la forêt noire, la résistance a été quand même assez faible.
Nous arrivons au terme de notre émission. Vous avez évoqué dans votre livre tous les défauts de cette expédition, en tous les cas du passage du Rhin. Vous évoquez les embouteillages, la signalisation défaillante, les reconnaissances bâclées, si ce n'est quasiment inexistantes. Alors, quel fut l'élément déterminant de cette campagne ?
Ah, je crois véritablement l'envie. C'est à l'image un peu du titre que m'a d'ailleurs donné Maurice Druon. C'est-à-dire le passage donc du statut de vaincu, d'humilié en 40, à celui de vainqueur, donc la motivation de prendre une revanche formidable. Les troupes en avançant croisaient des prisonniers à peine libérés, croisaient des déportés, donc elles avaient à cœur un peu de venger tout ça et de montrer que la France de 45, c'était plus du tout la France de 40, que ça allait redevenir une grande nation. Donc c'est véritablement, on pourrait dire de manière un peu vieillotte, du patriotisme. Sans les définitions actuelles du patriotisme, et c'est véritablement un grand enthousiasme.
Jean-Christophe Notin, je vous remercie beaucoup.
Merci.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre « Les vaincus seront les vainqueurs » aux éditions Perrin, un livre donc sur la France en Allemagne, la percée française en Allemagne en 1945. Vous êtes également l'auteur d'un livre qui a reçu le prix Raymond Poincaré, « La campagne d'Italie ». Je donne rendez-vous à nos auditeurs à la semaine prochaine. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup. Thank you.